Je t'aime, maman.
Avoir un enfant, c'est beaucoup de bonheur. Mais c'est aussi beaucoup de questions auxquelles on ne trouve pas toujours les réponses.
Qu'ai-je proposé à mon bébé?
Est-ce qu'il faut tenir sa tête pour le porter?
Est-ce normal s'il fait des crises?
Et s'il bouge beaucoup?
Si elle est suivante de la lune?
Je pense qu'elle est en retard sur son langage.
Il n'est pas vraiment à l'aise en motricité.
Je m'appelle Aurore.
Je suis orthophoniste et psychomotricienne et j'ai créé Donnez-lui des ailes pour vous accompagner à vivre avec sérénité le développement de votre enfant. Ça fait 15 ans que je travaille et je constate combien à la fois chaque histoire est unique, mais en même temps, toutes se ressemblent. Alors j'ai décidé de mettre en avant vos expériences, de recueillir les témoignages de parents qui partagent les difficultés qu'ils ont eues à ne pas trouver de réponse à leurs questions, à écouter les autres qui nous culpabilisent, à se comparer, à regarder sur Internet et le regretter. Bref, qui racontent leur histoire, sans filtre, leur vécu, leur expérience, et qui, avec leur recul, peuvent vous partager aujourd'hui des conseils et vous déculpabiliser. L'épisode d'aujourd'hui n'est pas en direct, vous ne pourrez donc pas me poser de questions, mais si vous vous retrouvez un peu dans l'histoire d'aujourd'hui, je vous encourage vivement à vous rapprocher de professionnels spécialisés, car chaque interrogation mérite d'être écoutée avec attention, et il y a toujours des solutions.
Aujourd'hui, je reçois Émilie, la maman de Chloé. Elle nous raconte combien elle s'est sentie désemparée lorsque l'enseignante de sa fille en petite section de maternelle lui a annoncé qu'elle était en retard par rapport aux autres enfants de sa classe. Elle nous explique comment, grâce à l'aide de sa pédiatre, elle est parvenue à dépasser cette étiquette et à accompagner l'épanouissement de sa fille.
Bonjour Émilie, merci de bien vouloir partager votre expérience, notamment parce que vous êtes la maman de Chloé. Et donc d'abord, je vais vous demander si vous pouviez vous présenter et puis présenter du coup votre histoire en quelques mots.
D'accord. Bonjour Aurore et merci de me permettre de m'exprimer en tout cas sur un sujet qui me tient à cœur. Donc je suis Émilie, maman de deux petites filles, Chloé et Olivia. Et ce qui nous caractérise, on va dire que c'est l'audace, que nous sommes des audacieuses, puisque c'est ce qu'on a fait. Il y a 3 ans, on va dire, osé le changement et on a décidé de s'expatrier à Londres pour vivre une nouvelle vie et notamment, voilà, je peux dire donner des ailes à nos enfants et notamment à Chloé.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et avec Chloé
Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc Chloé, qui est mon aînée, à son entrée en maternelle, donc 2 mois après la rentrée en maternelle, donc elle avait 3 ans et demi à peu près, j'ai eu cette convocation qui a été un petit peu la claque de ma vie à l'époque. Ça a été, la maîtresse m'a prise à part, voulait me voir pour me parler de Chloé. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai un tel électrochoc, à le savoir. Elle me dit, votre fille a un léger retard. Alors, je ne veux pas dire le mot attardé, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Mais elle m'a clairement dit, elle ne s'intéresse à rien, elle ne se concentre pas et elle n'interagit pas forcément avec les autres. À part dessiner, rien ne l'intéresse. Donc, elle m'a dit, il faudrait peut-être consulter parce que visiblement, il y a un problème. Je constate un retard chez Chloé. Et
d'accord.
Là,
pardon.
Tout s'effondre.
Ouais, vous ne vous y attendiez pas du tout.
Pas du tout.
Il n'y avait aucun signe qui vous faisait penser que elle était
non.
En retard d'une manière ou d'une autre.
Pas du tout. Alors, pas du tout, parce que bon, en plus, Chloé, c'est mon aînée, donc premier enfant, première petite fille des deux côtés, au niveau, enfin aussi bien chez mon mari que chez moi, donc une petite fille choyée, enfin enveloppée d'amour, le centre de l'attention, enfin, puis moi, c'était ma première, donc très, très investie, très engagée, donc, et puis bon, le côté parentalité, c'est vrai que je faisais mes marques, j'apprenais à devenir maman avec elle, mais rien ne me laissait supposer une telle annonce. Vraiment, pas du tout. Pas du tout.
Mmh. Donc qu'est-ce que vous avez fait du coup à la suite de ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
entre les jambes qui tremblent et vouloir rentrer 10 pieds sous terre et se culpabiliser. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, donc, il a fallu accueillir la nouvelle. Donc, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi? Donc, bon, on est resté sur elle s'intéresse à rien, à part le C de Chloé, elle connaît rien, etc. Donc, en plus, comme elle me dit, il faut consulter, etc. Donc voilà, c'est, je me suis sentie vraiment mal, le coup de massue sur la tête. Donc première chose que j'ai fait, parce que moi je suis quelqu'un qui sacralisait, voilà, maintenant je parle au passé, qui sacralisait vraiment le corps enseignant, l'école, etc. À partir du moment où une maîtresse me dit quelque chose, donc limite, je ne vais pas dire parole d'évangile, mais limite. Donc première chose que j'ai faite, j'ai appelé ma pédiatre. J'ai appelé ma pédiatre voilà, pour lui dire que je sors d'une convocation avec la maîtresse. Elle me dit, voilà, Chloé a un retard, elle ne s'intéresse à rien. Enfin, vraiment, elle n'interagit pas forcément de la même façon avec les autres, enfin, par rapport aux autres enfants. Enfin, voilà, quand on la compare aux autres, comparée aux autres de la classe, voilà, il y a un problème. Elle m'a dit qu'il y a un retard, il faudrait consulter. Donc, avant de consulter, déjà consulter qui? J'appelle ma pédiatre et du coup, qui a vraiment été top. Puisqu'elle m'a dit, attendez, pas de panique, Madame Moussin, calmez-vous, reprenez vos esprits. Voilà, je crois qu'on était en octobre ou en novembre, voilà, ça fait 2 mois que l'école a commencé. Donc Chloé, elle vient de déménager, puisqu'il faut savoir que j'étais enceinte de ma deuxième. J'étais enceinte de 8 mois à l'époque. Elle m'a dit, voilà, Chloé, vous venez de déménager, donc un changement de maison. Chloé passait de la crèche où elle était en confiance, où elle avait ses marques, à maintenant... l'école avec moins d'intention, ils sont plus 12 dans la section, ils se retrouvent à 33 dans une classe. J'avais été, entre guillemets, agressée à Barcelone, enfin bref, on avait volé mon sac, etc. Donc Chloé avait été témoin de la scène et elle n'arrêtait pas d'en parler. Est-ce que le voleur va revenir? Est-ce que le voleur va revenir? Une petite sœur qui est arrivée. Donc voilà, ma pédiatre m'a dit, il y a eu beaucoup de changements. Changement d'école, changement de maison, le foyer familial change avec l'arrivée d'une petite sœur. Avant de se précipiter chez le psychiatre, chez le psychologue, discuter avec Chloé, regarder la situation, on essaye de trouver cause à effet, on se voit si vous voulez, mais ça ne sert à rien de tirer les sonnettes d'alarme dans tous les sens. Et effectivement, il y avait eu l'incident de plus, c'est-à-dire que voilà, je crois qu'il y avait eu 2 pipis dans la semaine à l'école, voilà, où on m'avait redonné culotte, voilà, il faut prévoir du change, hein, il faut encore prévoir du change cette semaine. Hein. Donc du coup, j'ai quand même pris rendez-vous avec un urologue. Enfin, voilà, la panique, l'interrogation, la culpabilité, la peur, enfin, tout un tas d'émotions qui se sont mélangées et qui m'ont fait me dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai loupé, à côté de quoi je suis passée, est-ce que j'ai bien fait de faire un deuxième maintenant? Enfin, ouais, j'en étais arrivée à un point de grande interrogation et de doute.
Vous m'aviez dit auparavant que en la comparant un petit peu du coup avec peut-être des amis, des enfants de vos amis, vous aviez remarqué par exemple au niveau des dessins qu'elle
faisait
la même chose.
Ouais, du coup quand elle m'a dit ça, la maîtresse, forcément ça a été la comparaison avec tout le monde, notamment avec les enfants de mes amis, puisque là où j'habitais à l'époque. On se retrouvait hein, tous les mercredis entre mamans, on se faisait un déjeuner avec les enfants. Et voilà, enfin, quand les autres enfants, en tout cas les 2-3 en particulier dont j'ai le souvenir, faisaient, vous savez, quand vous attendez, là, je ne sais pas si je peux dire une marque, mais c'était au Buffalo Grill, hein, quand on donnait rendez-vous. Et pour faire attendre les enfants, il y a les mots croisés, il y a relier les points à des numéros pour donner une forme. Et du coup, je voyais qu'effectivement, les enfants le faisaient, ils arrivaient à écrire leur prénom. Et la mienne, à part aller jouer, être intéressée à mettre une pièce pour avoir la petite surprise, ou aller jouer, il y avait un petit manège, on mettait pareil 1 euro, puis la voiture, elle se mettait à faire un rallye où il y avait un cheval qui faisait du rodéo, là. Je me suis dit, mais la mienne, effectivement, elle ne s'intéresse pas du tout à ce qui est, alors je ne veux pas dire éducatif, mais à ce qui est scolaire. Ça, c'est vrai. Du coup, j'ai été très attentive là-dessus et j'ai remarqué que c'était pas du tout... non, elle ne s'y intéressait pas du tout, ça, c'est vrai. Et je me suis dit, donc peut-être que elle s'en fiche, peut-être qu'effectivement, apprendre, ça ne l'intéresse pas. C'est que le jeu, Mais oui, quand Charlie écrivait son prénom et Kiara savait écrire son prénom, moi, la mienne, c'est de Chloé et Zatsit. Enfin, et c'est tout, quoi.
Mmh. Par rapport à ça, en fait, vous avez eu la chance d'avoir une pédiatre qui vous a finalement permis de voir que c'était surtout peut-être le contexte. Donc, le fait que vous étiez enceinte, que vous avez été agressée peu de temps avant, il y avait eu ce déménagement, tout ce contexte-là, en fait, faisait qu'elle était peut-être tout simplement pas disponible pour les apprentissages scolaires, c'est ça ?
Exactement, ouais. Exactement. En tout cas, déjà, elle m'a clairement dit que chaque enfant est unique, ça, je me rappelle très bien, mais elle a insisté, hein. Chaque enfant est unique. Ça ne sert à rien de comparer Chloé aux amis, enfin aux enfants de vos amis ou de votre famille. Elle me dit c'est comme un enfant, il y a des enfants qui marchent à 9 mois, il y en a qui marchent à 2 ans. Tôt ou tard, l'enfant, il sait marcher et il sait courir. Donc Chloé, tôt ou tard, elle saura écrire son prénom. Et là, c'est juste une question de moment. Chaque enfant vit les expériences de manière différente, chaque enfant a sa sensibilité, chaque enfant a sa perception sur le monde, sur les autres. Là où Chloé sort d'un concours, quand même, ils étaient 12, hein, 12 dans sa section à la crèche, à une école de 33, ça peut être violent pour un enfant avec les changements inhérents, hein, de la grossesse, du déménagement. Donc vraiment, elle m'a surtout dit de ne pas paniquer, de juste observer, mais qu'elle, en tant que médecin, il n'y avait rien à signaler. Juste laisser ma fille être qui elle est et évoluer à son rythme. Et ça, je crois que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. La laisser être qui elle est. Et chaque enfant est unique, à chacun son rythme.
Mmh. Et du coup, comment ça s'est passé par rapport à ce conseil-là? Parce que vous êtes resté quand même encore... donc là, c'était au début de l'année que ça s'est passé. Mmh. Il y a eu encore toute la fin de l'année avec cette maîtresse. J'imagine que ça n'a pas forcément été facile, que malgré ce conseil de la pédiatre, vous interrogiez quand même. Comment ça s'est passé à ce moment-là?
Comment ça s'est passé, c'est que du coup, oui, finir l'année avec cette maîtresse, ça n'a pas été forcément très évident, dans le sens où c'est vrai qu'à l'époque, je l'ai pris comme une attaque personnelle. Je l'ai vraiment pris comme une attaque personnelle, à savoir c'est moi la maman, c'est moi qui ai fauté, c'est moi qui... Enfin, je l'ai vraiment pris pour moi. Donc du coup, oui, alors je ne vais pas dire qu'il y avait des tensions, mais j'ai essayé de faire abstraction de cette maîtresse, c'est-à-dire que voilà, je ne voulais même pas qu'elle me parle ou quand elle avait un truc à me dire. Enfin, ouais, après, il y a ce côté où je peux... pas lui dire ce que je pense parce que j'avais qu'une envie, c'est de lui exploser à la tête. Mais vous êtes qui pour me dire ça? En plus, elle n'avait pas d'enfant, donc elle était jeune. Hein. Vous n'avez même pas d'enfant. Enfin, c'est pas parce que vous êtes maîtresse. Enfin, on a envie d'exploser cette colère, cette injustice, le fait d'être pointé du doigt, d'être jugé. Je l'ai pas fait parce que je me suis dit bon, il y a encore quelques mois à tenir. Celle qui va trinquer, ça va être Chloé. On sait comment ça se passe. Hein. Il y a un problème avec le parent. Généralement, c'est l'enfant qui trinque. Elle me dit déjà qu'elle a attardé, limite, elle est au fond de la classe, enfin, elle est isolée, donc j'ai pas envie d'accentuer le truc. Donc les mois se sont passés, tant bien que mal, mais ouais, c'est-à-dire que ouais, j'ai fait un blocage et voilà, je me suis limite mis un mur, j'ai dit à partir de maintenant, elle, ce qu'elle dit, j'en tiens plus compte. Elle n'est pas intelligente. Je ne prendrai en compte que ce que ma pédiatre me dira. Et je mets la maîtresse, ses états d'âme, ses pensées, son ressenti à elle. Mais ce qu'elle ressent et ce qu'elle perçoit, ce n'est pas la vérité. Ma fille, elle n'est pas attardée. Et je vais tout faire pour que... lui montrer qu'elle a tort. Ou en tout cas... que ce qu'elle pense, ça n'a pas d'incidence sur les futurs mois et la scolarité de ma fille.
Du coup, l'année s'est terminée. Ensuite, elle est rentrée donc, en moyenne section de maternelle. À ce moment-là, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que la maîtresse avait un autre regard? Comment ça s'est passé?
Du coup, il y a eu une autre maîtresse, très sympa. Mais en fait, c'est aussi à peu près à ce moment-là, en début octobre, nous, on a pris la décision de s'expatrier à Londres. Et donc, autant dire que, on a pris la décision en octobre. En février, mon mari partait et le 3 mars, nous, on le rejoignait. Donc, autant vous dire que j'étais déjà plus dans le système scolaire français. J'étais focalisée sur ma nouvelle vie à Londres, sur trouver une nouvelle crèche, trouver une nouvelle école. Enfin, donc, j'ai pas du tout vécu la scolarité comme d'autres parents auraient pu le vivre, je pense.
D'accord. Mais la maîtresse vous a pas parlé de difficultés qu'aurait eu Chloé? Est-ce que au niveau de vous, enfin, vous continuiez à la comparer un peu? Comment ça se passe au niveau de ses apprentissages du coup pendant ce début d'année.
C'est vrai que non, j'ai plus comparé du tout. Après, il faut savoir qu'en première année de maternelle, Chloé, elle allait à l'école de 8h30 à 11h30. Donc, puisqu'après, bon, en première année, ils font la sieste l'après-midi. Donc du coup, voilà, enfin, elle allait prendre ce qu'elle avait à apprendre. Moi, c'est ce que je me disais, elle prend ce qu'elle a à apprendre pendant 3 heures, on verra l'année prochaine. Après, elle était à l'école toute la journée. J'ai quand même, voilà, vu avec la maîtresse, elle me dit que bah, Chloé, ça va très bien. En plus, elle retrouvait, je me rappelle à l'époque, une de ses meilleures copines, elles étaient dans la même classe. Elles étaient une petite bande qui s'entendait super bien. Donc, non, après, vraiment, je pense que j'ai vraiment lâché prise et elle ne m'a pas alertée sur quoi que ce soit. Et comme je vous dis, hein, la rentrée, c'était en septembre. En octobre, la décision a été prise. Donc, moi, j'étais même plus dans le système scolaire français. J'étais sur nos projets d'avenir, nouvelle scolarité. Et nouvelle vie, quoi. Donc, nouvel apprentissage, nouvelles expériences, acquisition d'une nouvelle langue. Voilà. Par contre, ce que j'ai mis en place, c'est vraiment, faire plus d'exercices à la maison. J'avais commandé des petits cahiers d'exercices qu'on faisait de temps en temps l'après-midi. J'ai tenté, par contre, effectivement, de l'intéresser quand même davantage, alors pas forcément à l'écriture, mais à des jeux et des activités pédagogiquement scolaire. Je ne sais pas si je peux l'employer comme ça, mais pas juste du dessin, quoi. Des choses où on pousse une réflexion et où c'est une sorte de travail déguisé.
D'accord. Donc ça, vous avez fait ça dès la petite section ou en moyenne section seulement, vous avez commencé ces exercices?
Non, j'ai fait dès la petite section. Hein. J'ai fait dès la petite section, même si j'ai mis un peu à côté le fait ce que la maîtresse me disait. Mais voilà, c'est vrai que je ne voulais pas non plus qu'elle soit juste au C de Chloé. Donc, je me suis dit, bon, on peut peut-être écrire, on peut peut-être former des lettres. Donc, ouais, je crois que j'avais commandé un cahier sur Amazon, un truc comme ça, où on apprend à faire des boucles. Je sais que j'avais ma tante qui m'avait donné quelques livres de méthodes. Mais en gardant le côté ludique, sans mettre trop de pression. Mais voilà, juste me dire, je ne sais pas comment ça va se passer, faut quand même qu'elle soit, entre guillemets, intégrée. Et quand bien même, voilà, la deuxième année, je me sentais déjà partie dans mon expatriation, je ne savais pas non plus quel était le niveau là-bas en Angleterre, puisqu'on m'a quand même demandé le niveau scolaire de, vous savez, le livret scolaire pour le transférer en Angleterre. Donc, je me suis dit, si eux, les Anglais, ils s'attendent à ce qu'elle sache écrire ou lire. Enfin, je ne sais pas, hein, je ne savais pas à quoi je m'attendais. Je me suis dit, bon, on va quand même essayer de faire des petites choses, quoi.
Ok. Et donc, finalement, une fois que vous êtes arrivée en Angleterre, les choses ont changé. Enfin, vous avez arrêté de lui proposer ses exercices. Vous avez fait confiance au système scolaire.
Alors, oui, complètement. Il faut savoir que alors l'Angleterre, l'école commence un peu plus tard, mais eux, ils apprennent à lire dès l'âge de 4 ans. Donc, Chloé avait 4 ans et demi quand elle est arrivée, quasiment 5 ans, ce qui s'appelle la maternelle chez eux. Et donc, voilà, on a trouvé l'école en avril. Et là, il s'est avéré que bon, la seule petite fille qui ne parle pas un mot d'anglais, forcément, puisqu'on l'a mise dans une école anglaise. Et au-delà de ça, ils savaient tous lire et écrire. À part elle. Donc là, ça a été un gros challenge, mais le système anglais est différent, à savoir déjà quand vous remplissez le dossier d'inscription, on vous demande quel est le gift de votre enfant, enfin quel est son talent, pardon, afin de se focaliser sur leurs points forts et éviter de pointer les faiblesses. Donc moi, j'avais mis le dessin, voilà, les trucs qu'elle aime faire, quoi, hein, l'art, le côté artistique du dessin. Et ils l'ont tout de suite prise en charge, où deux fois par semaine, ils ont mis en place, c'est pas que pour elle, hein, mais pour tous les enfants, parce que Londres, c'est très cosmopolite, pour tous les enfants étrangers, ils ont mis en place ce qui s'appelle des boosters. Donc, deux fois par semaine, elle était dans des petits groupes où ben, il reprenait tout le cursus et il s'adaptait vraiment à l'enfant. Et ça, ben, ça l'a vraiment aidé. En 3 mois, elle comprenait tout. En 6 mois, je ne vais pas dire bilingue, mais elle était parfaitement fluente. Et puis, voilà, elle a rattrapé, voilà, elle savait lire et écrire. Et elle s'est même retrouvée en avance par rapport à ses cousins et cousines qui vivaient en France.
D'accord. Je précise que ni vous ni votre mari n'étiez anglophone à la base ou anglais. Voilà, c'était...
Ah non, pas du tout.
C'était, oui. D'accord. Pas du tout. Donc, du coup, en fait, finalement, les inquiétudes que vous avez eues au départ, en tout cas aujourd'hui, vous les avez plus du tout. Ça va très bien au niveau scolaire.
Plus du tout. Alors là, vraiment, tous les doutes ou tous les questionnements sont complètement dissipés. Même si cette expérience avec la maîtresse en première section m'a profondément marquée, c'est vrai, parce que c'est une histoire que je répète, qui me suit dans le sens où, voilà, enfin, il y a 3 ans, on m'a dit que ma fille était attardée, qu'il y avait un retard, qu'elle s'intéressait à rien. Et aujourd'hui, je me dis, elle est quand même bilingue, elle sait lire dans 2 langues, elle a rattrapé parfaitement le niveau scolaire et elle est au même niveau qu'un petit anglais. Et ouais, elle a même gagné un concours d'écriture ici en Angleterre. Donc, ouais, clairement, complètement dissipée, c'est une belle victoire, franchement, une belle victoire pour nous.
Maintenant, je me mets à la place de parents qui auraient aussi des inquiétudes comme ça, à qui on aurait pu dire certaines choses, que ce soit des enseignants, des médecins ou des proches, ou des pas proches d'ailleurs, et qui se poseraient beaucoup de questions, mais qui n'auraient pas du coup la chance d'avoir ce pédiatre qui vous a permis de prendre du recul, et voilà, de voir un petit peu aussi le contexte, et puis voir les compétences de votre enfant que vous avez eu aussi au niveau de... En la mettant dans un autre système où du coup on était plus centralisé sur les compétences. Quel conseil vous donneriez à des parents qui, voilà, qui resteraient dans une situation comme ça, qui n'auraient pas les moyens de s'expatrier ou l'envie de s'expatrier et qui n'auraient pas, voilà, une personne pour les aider à prendre du recul? Qu'est-ce que vous auriez à leur transmettre?
Alors, je pense que j'aurais plus d'une chose à leur transmettre, mais la première, maintenant que vous dites ça comme ça, ne pas prendre les choses personnellement. Ne pas prendre la critique, le jugement ou la remarque à titre personnel. Parce que c'est pas un défaut du papa ou de la maman, c'est pas une défaillance, une faille. Non, première étape, ne pas le prendre personnellement, même si c'est pas évident, hein. Et moi, c'est ce que j'ai fait, je l'ai vraiment pris comme une attaque, comme si j'étais visée, jugée, etc. Mais non, première étape, c'est se dire, c'est voilà, c'est le ressenti de la maîtresse, sa perception, elle a certainement des raisons qui font qu'elle pense ceci, mais ce qu'elle pense n'est pas la réalité, et encore moins à m'adresser personnellement. Et la deuxième chose, ce serait de se faire confiance. Parce qu'on connaît nos enfants, un minimum, même si, en tout cas, de mon côté, c'est vrai que je sacralisais le corps enseignant et le corps médical, hein, parce que, voilà, un prof qui vous dit quelque chose ou un médecin qui vous dit quelque chose. Donc, prendre vraiment le recul nécessaire, on connaît nos enfants. Donc, oui, trop excité, trop en retard, attardé, ingérable. Il y a une raison, il y a un contexte, il y a cause à effet. Et voilà, c'est ce que je dirais. Ne pas prendre les choses personnellement et ouais, prendre du recul. On connaît nos enfants et se faire confiance un minimum. Aller chercher qu'est-ce qui a bien pu se passer pour provoquer ceci ou cela.
Et après, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que parfois, effectivement, il peut y avoir une difficulté qui peut être expliquée par quelque chose peut-être de neurologique ou autre, enfin, vraiment une pathologie sous-jacente, que ce soit grave ou pas grave d'ailleurs, enfin, mais il peut y avoir quand même quelque chose. Et c'est vrai que oui, comme vous le disiez, la maîtresse, c'était avec beaucoup de bonnes intentions. J'imagine qu'elle a fait ça sans doute très maladroitement, mais pour essayer de vous alerter du coup sur le fait que, en tout cas, il y avait un décalage par rapport aux autres enfants. Du coup, c'est vrai que c'est pas évident non plus. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux parents pour justement finalement savoir faire la part des choses entre eux, est-ce que c'est grave ou c'est pas grave?
La première chose, je pense que ce serait ouvrir le dialogue. Alors, à l'époque, je ne sais pas si je l'avais fait de la bonne façon, comme je peux le faire aujourd'hui, hein, puisque j'ai aussi changé de métier, ça m'a amené très loin, tout ça. Mais ouvrir le dialogue, à savoir qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens dans la classe, est-ce que tu l'aimes, est-ce que tu l'aimes bien ta maîtresse. Après, je pense que la maîtresse, elle a peut-être eu un ras-le-bol, elle était peut-être aussi pas très bien, hein. Enfin voilà, je sais pas, de pipi dans la semaine, Chloé qui a peut-être pas bien fait un exercice ou qui a été dissipée, enfin, à coup sûr, comme vous dites, il n'y avait pas de mauvaise intention, et à coup sûr, voilà, ce qu'elle m'a dit, c'était forcément motivé par quelque chose. Donc peut-être un des conseils, ce serait vraiment ouvrir le dialogue et solliciter un autre professionnel. Moi, en tout cas, j'avais sollicité ma pédiatre. Voilà, les deux pipi au lit, etc., font que, comme je vous ai dit, je suis allée voir l'urologue. On a écarté le côté médical. Elle n'a pas un problème, puisque je me rappelle, hein, mine de rien, les enfants nous écoutent. Et je disais toujours, mais elle a un problème. Au téléphone, avec ce que j'ai appelé aussi mon mari, je crois que Chloé, elle a un problème, elle a refait pipi. J'ai dit à la pédiatre, Chloé a un problème. Enfin, et un jour, ma fille, je me rappelle, je dis, mais Chloé, mais pourquoi tu as fait pipi? Elle me dit, mais maman, j'ai un problème. Et j'ai dit, ah ouais, d'accord. Et je pense que ouais, ouvrir le dialogue avec l'enfant, solliciter un autre avis médical en tout cas, parce que s'il y a un pédiatre qui suit votre enfant ou un, comment on appelle ça en France, un docteur généraliste, c'est ça, hein?
Ah oui, un médecin généraliste.
Un médecin généraliste qui suit votre enfant, il connaît votre enfant, il connaît l'évolution. Donc, il saura nous dire, enfin, en tout cas, pas prendre un seul conseil pour argent comptant et pour une vérité, aller chercher des vérités ailleurs et surtout ouvrir le dialogue, la discussion avec l'enfant.
Oui, après, c'est vrai qu'on a souvent le réflexe d'aller voir justement un pédiatre ou un médecin. Malheureusement, les pédiatres et les médecins sont surtout spécialisés dans les maladies et leurs traitements. Et ouais. Leur compétence au niveau du développement de l'enfant dépend vraiment avant tout de leur volonté et de leur intérêt personnel. Donc c'est pas toujours évident, c'est pour ça que aussi on a créé Donner de vie des ailes. L'idée c'est vraiment d'accompagner les parents qui justement se posent des questions, qui justement ont un avis et ont pas forcément un regard d'un professionnel qui soit vraiment spécialisé dans le développement de leur enfant et qui puisse les aider à avoir peut-être des signes ou des choses qu'ils n'auraient pas vues et qui seraient effectivement à l'origine d'une difficulté réelle, peut-être neurologique ou génétique, ouais, ou autre, ou pas du tout, au contraire, les rassurer et leur dire que, comme vous disiez, comme c'était le cas pour Chloé, c'est normal et tout va bien, les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà, c'est vraiment aussi l'objectif.
C'est vrai que quand c'est un médecin qui vous dit « rassurez-vous, tout va bien », il y a un poids énorme qui s'enlève. Parce que généralement, il y a aussi cette relation de confiance, etc., avec le pédiatre. Après, attention, hein, j'ai eu une chance exceptionnelle, extraordinaire, d'avoir une pédiatre. Elle a du métier, elle a plus de 40 ans de métier. Elle m'a dit, faites confiance à votre enfant, faites-vous confiance en tant que maman. Et j'ai eu beaucoup de chance, en fait, d'avoir cette pédiatre qui soit pas que sur le côté thérapeutique, vaccin, qui est très ouverte et dans l'accompagnement du parent pour que on puisse justement donner le meilleur à nos enfants.
Oui. D'ailleurs, votre pédiatre, si je ne me trompe pas, a préfacé le livre que vous avez écrit, Le développement personnel expliqué à mon enfant, qui est né un petit peu aussi de cette histoire avec Chloé. L'idée de votre livre, du coup, c'est, c'est justement de... Ben... Non, ben vous allez nous en dire deux mots, peut-être sera plus simple.
Non, oui, effectivement, c'est ma pédiatre qui a préfacé mon livre parce que je voulais vraiment avoir un avis médical et quoi de mieux que cette pédiatre qui a bossé à Necker, enfin qui dirige un département à Necker, qui maintenant est aussi à Robert Debré, au-delà d'être pédiatre de ville, quoi. Enfin, donc c'était important pour moi que mon livre soit préfacé par quelqu'un du corps médical, surtout qu'en plus qu'elle a suivi mes enfants. Et que, comme vous dites, ce livre, c'est une partie de notre histoire, une partie de l'histoire de Chloé. Et la volonté, c'est bâtir l'estime de soi dès le berceau pour que nos enfants petits, devenus grands, portent haut et fièrement leur flambeau. Chaque enfant est différent, chaque enfant est unique, chaque enfant a son rythme. Et voilà, il ne faut pas qu'une étiquette... poser, pardon, hein, je vais être un peu militante, hein, mais c'est vraiment devenu mon combat dans, voilà, avec des mamans ici en Angleterre. Enfin, du coup, j'interviens même dans des écoles pour des ateliers self-esteem, des ateliers estime de soi, où vraiment une étiquette posée trop tôt peut littéralement gâcher l'avenir d'un enfant, peut culpabiliser un parent au point que... Enfin, ouais, moi, sur le coup, ça a été vraiment ça, hein, vraiment, une étiquette posée trop tôt, peut faire des dégâts. Vraiment, peut faire des dégâts. J'ai eu cette chance d'avoir un super pédiatre. J'ai eu cette chance de me dire, on rebondit. C'est pas que Chloé qui nous a menés à Londres. Il y a aussi un autre facteur. Mais cette décision de nous faire confiance, de lui faire confiance, waouh, ça en valait le coup. Et maintenant, je sais qu'on pourra lui dire... t'es pas assez bonne, t'es pas capable, elle y croira pas. Elle y croira pas. Ça, c'est sûr et certain. Elle ira au-delà et elle fera ce qu'il faut pour. Le plus important, c'est que, voilà, c'est vraiment votre émission, donnez-lui des ailes, c'est ça. C'est, je pense que ça peut aussi résumer le contexte du livre. C'est donner des ailes à nos enfants pour que, devenus grands, ils puissent s'envoler et être qui ils sont vraiment, devenir ces êtres qu'ils veulent devenir.
Ouais. Après, c'est vrai que je me permets de nuancer un petit peu. C'est vrai que mettre des étiquettes à l'enfant, c'est en général pas forcément positif. Mais c'est l'association Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans qui parlait justement d'une prévention prévenante, attentive aux enfants et respectueuse des familles. En fait, l'idée, c'est que plus que de coller des étiquettes, c'est vraiment... d'accompagner justement le parent dans qu'est-ce qu'il peut faire, comment est-ce qu'il peut accompagner son enfant et pour que des difficultés qui ont pu être remarquées puissent être effacées ou en tout cas diminuées au maximum et qu'on puisse éviter au maximum
des
séquelles. Voilà, si jamais...
Je suis complètement d'accord avec vous, avec notamment cette nuance, et même quand vous parlez de prévention, alors je suis pas au courant, mais vous me l'apprenez, ce côté prévention, je pense qu'il est important. Je pense qu'une maîtresse ou un maître, hein, c'est important de prévenir un parent, mais alors dans ces cas-là, c'est dans la manière. Moi, on m'a convoqué, c'est pour ça que je parle d'étiquette posée trop tôt, pour me dire, il y a un retard. Donc quand on dit à une maman, votre enfant a un retard, c'est pas la même chose que quand on dit voilà Madame Moussin, est-ce qu'on peut discuter, j'ai remarqué que Chloé était un peu à l'écart, qu'au niveau concentration en ce moment c'était pas ça, il y a eu deux pipis cette semaine, est-ce qu'il y a quelque chose de différent à la maison, est-ce qu'il y a eu un changement, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que je dois être attentive à quelque chose en particulier. Elle m'aurait ouvert une discussion comme ça avec Chloé était au centre des préoccupations avec un côté
prendre soin.
Bienveillant, pardon. Mm-hmm. Voilà, prendre soin. J'aurais pas eu cette attitude. Le dialogue aurait été ouvert. Mais me dire, Madame Moussin, est-ce qu'on peut se parler 2 minutes? Oui, ok. Je dois vous dire que même déballe son truc. Il y a un retard. C'est pas du tout de la même manière. Tout est dans la présentation. Donc, effectivement, si je me suis mal exprimée sur le côté étiqueter trop tôt un enfant, donc je corrige. Et moi, c'est dans la manière d'adresser le parent. Il n'y a pas de parent parfait, jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas, le mode d'emploi ou le manuel de la parfaite maman, de la parfaite famille ou du parfait papa. Par contre, que ce soit un médecin, que ce soit un professeur, il y a une manière d'exprimer une perception, une idée, un ressenti sur un enfant. Il faut savoir qu'on se met beaucoup de pression en tant que parent. Alors peut-être qu'il ne faut pas, hein, mais je ne connais pas un parent qui ne se dise pas « je veux donner le meilleur, je veux le meilleur pour mon enfant ». Et quand on est dans une démarche comme ça de tout donner et qu'on se prend en plein visage « votre fille, elle est attardée », enfin voilà, « votre fille, elle est en retard », sans se poser de questions sur ce qui se passe, mais de poser une sorte de diagnostic, entre guillemets, voilà, je reprends l'étiquette, mais perso, je l'ai vu, ça a été violent pour moi, ça a été vraiment violent.
Juste, il y a deux choses sur lesquelles je voulais revenir. Donc, par rapport au retard, en fait, un retard simple, qu'on appelle ça un retard simple, c'est simplement en fait, un décalage au niveau des acquisitions. Donc, y a pas, ça ne veut pas dire du tout retardé. Quand on parle de retard simple, ça veut juste dire un décalage au niveau des acquisitions. Et du coup, on peut se poser des questions, effectivement, mais il n'y a pas forcément une pathologie, il n'y a pas forcément quelque chose de grave derrière.
Moi, elle m'a dit qu'on consultait. Voilà. Moi, elle m'aurait dit qu'il y a un décalage avec les autres. Je ne l'aurais pas du tout pris de la même manière. Mais il y a un retard, il faudrait peut-être consulter. Il y a eu deux pipis dans la même semaine. Enfin, il y a eu tout un tas de facteurs qui font que voilà, je l'ai pris. Oui, ça a été une gifle. Je comprends parfaitement ce que vous me dites. Et demain, si on me dit un truc sur Chloé ou sur Olivia, bon, parce que j'en ai deux, je parle de Chloé, mais j'en ai deux qui sont complètement différentes pour le coup. Ben je prendrai les choses différemment, ou j'écouterai en tout cas différemment. Il y a eu tout un tas de facteurs qui font que elle m'expose ça sans prévention, sans tâter un peu le terrain. Enfin, elle aura pu me dire qu'elle est en retard, mais en préparant un petit peu le terrain, mais lâcher de but en blanc comme ça, c'est vrai qu'elle aurait utilisé le mot « il y a un décalage ». Je suis sûre que je ne l'aurais pas pris de la même façon que « il y a un retard, il faut consulter ».
Et la deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est au niveau des étiquettes. Donc, ouais. C'est vrai qu'une étiquette, c'est, enfin, en général, en tout cas, posée par quelqu'un qui n'a pas normalement les compétences pour poser cette étiquette, c'est effectivement pas, souvent pas très porteur. Maintenant, un vrai diagnostic qui est posé par un médecin, parce que les diagnostics de maladie, ou pour le coup si c'est un retard, non pas un retard simple, mais plutôt un retard global ou quelque chose de plus complexe, dans ce cas-là, c'est un médecin spécialisé qui doit poser le diagnostic. Et dans ce cas-là, et puis par exemple si c'est une maladie rare ou n'importe quelle autre maladie, même si elle n'est pas rare, souvent le fait d'avoir pour le coup cette étiquette, d'avoir ce diagnostic, ça rassure énormément les parents, parce que justement, comme vous le disiez, ils sentaient qu'il y avait quelque chose de pas normal, ils sentaient qu'il y avait quelque chose de différent et ils n'arrivaient pas à comprendre ce que c'était. Et là, pour le coup, ça peut être rassurant, même si c'est posé pour le coup très très tôt. C'est pas une histoire de... d'âge, mais c'est vraiment voilà, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit justifié et que ça corresponde vraiment à ce que c'est. Mais au contraire, quand c'est vraiment un diagnostic, plus il est posé tôt et plus on va pouvoir agir correctement et mettre voilà faire ce qu'il faut au moment où il le faut. Mm-hmm. Voilà.
Ouais, non, je suis complètement d'accord avec vous, ça c'est vrai. Et puis c'est vrai que pour revenir à cette histoire, du coup, quand elle m'a dit ça, pour moi, voilà, la première année de maternelle, on joue, quoi. Enfin, j'étais pas projetée dans ce côté apprentissage, même si je me suis dit, bon, il compte, etc. Mais ah, je me disais, elle est de 8h30 à 11h30, l'après-midi, je la récupère, elle fait la sieste. Bon, ben, c'est vrai que j'étais pas dans ce mode apprentissage, acquérir... voilà, de la connaissance, peut-être que moi aussi, d'un côté, je sacralisais le corps enseignant, de l'autre côté, peut-être que je minimisais ce qu'on apprend en première année de maternelle. Enfin, en tout cas, il y avait un décalage entre mes croyances, ma perception de l'école et celle de la maîtresse ou de ses attentes, etc. Et ça a donné, ce challenge, on va dire, à relever. Mais au final qui a écrit une belle histoire, qui a même écrit un livre, parce que je pense que si on n'avait pas vécu ça, ouais, il y a plein de choses qui se seraient pas passées en tout cas.
Bah, très bien, bah, écoutez, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être comme mot de la fin.
Mot de la fin, je dirais qu'il irait pour vous. Merci de me donner la parole, parce que voilà, donnez-lui des ailes, je trouve que c'est juste excellent, comme déjà comme thématique, c'est très symbolique. Ça représente vraiment le côté éducation, l'envol de l'enfant, etc. Donc, je suis très contente de pouvoir m'exprimer, de parler de cette expérience et de mon livre, Le développement personnel expliqué à mon enfant, et de le faire avec vous sur quelque chose qui, dont je partage les valeurs. Merci à vous.
Bah, de rien. Merci à vous pour ce témoignage. Et puis, du coup, votre livre, on peut l'acheter sur Amazon, c'est ça ?
C'est ça, sur Amazon, et y a quelques livres qui vont partir chez Cultura, voilà.
Ok, bah très bien. Merci beaucoup, voilà. Et puis bah, bonne fin de journée.
Merci, bonne journée à vous également, et puis merci pour ce moment accordé.
Au revoir.
Chaque histoire mérite d'être partagée. Si vous aussi vous avez envie de raconter votre expérience, envoyez-nous un mail à contact@donnezluidesailes.fr.
Écoute les conseils de tous et prends celui qui te convient.
Si vous avez apprécié cet épisode, un like ou un commentaire seront très appréciés. Et pour poser vos questions en direct lors de nos prochains épisodes audio, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram tous les lundis à 21h. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite sur donnezluidesailes.fr pour télécharger notre livret « Comment accompagner le développement de votre enfant ». Vous y trouverez aussi la possibilité de prendre un rendez-vous individuel, par téléphone ou visioconférence, pour des conseils sur mesure adaptés à la situation de votre enfant.